vue d'ensemble de l'actualité.
Ben, je pense que le système est conçu pour les hôpitaux. C'est plus payant politiquement de construire des maisons des aînés ou des CHSLD. On l'annonce 5 fois. Hein. Quand on le promet, quand on l'annonce, quand on lance les appels d'offres, quand on a la première pelletée de terre, puis quand on coupe le ruban. Alors, 5 annonces, alors que d'annoncer une augmentation des budgets en soins à domicile, on le fait une fois, puis ça passe presque inaperçu. Alors, il y a tout un enjeu politique là-dedans. Il y a aussi un enjeu que la population, la société en général, veut voir les personnes âgées en perte d'autonomie dans des CHSLD. T'sais, c'est pas, on n'a pas cette conscience-là que les Européens ont et que les Asiatiques de garder les gens à domicile et de leur fournir des services.
Trainville PM.
Régent Hébert, ancien ministre de la Santé, spécialiste des soins à domicile. Je résume là, mais c'est vraiment ça. Alors, il parlait évidemment à Paul Arcand ce matin. Marguerite Blais, rebonjour.
On
fait quoi là? Parce que là, c'est très très clair là. Le quart de la population du Québec va avoir 65 ans et plus d'ici 2030. Et pour affronter ce que Katia Gagnon et Ariane Lacourcière appellent le tsunami gris, ça prendrait 3000 nouvelles places d'hébergement par année. On est loin, loin, loin de ça.
Ben, M. Drainville, pour commencer, je m'inscris un peu en faux par rapport aux propos du docteur Régent Hébert, dans le sens que c'est pas juste une question là, politique. On l'a vu, l'état des CHSLD au Québec qui n'ont jamais été rénovés, refaits. Il y a des chambres qui accueillent 3 personnes à la fois, vous imaginez, pendant la COVID-19. Alors, il faut faire des maisons comme les maisons Carpe Diem. C'est d'ailleurs une de nos inspirations, là, les maisons des aînés. C'est vraiment pour les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des petites unités de 12.
Oui.
Et effectivement, Nicole Poirier là, m'a toujours inspirée, puis on est très contents de la soutenir parce que c'est une battante, cette
femme-là. Oui.
Mais
Marguerite Blais, là, toutes les maisons des aînés là, qui vont être construites, ça représente combien de milliers de places? Là? Toutes les maisons des aînés là, qui vont se construire, c'est combien de places?
D'ici 2022, on va faire 3000 places. On s'est engagé à 2600, on va en faire 3000 places.
Bon.
Et effectivement, M. Drainville, laissez-moi terminer ça, vous avez absolument raison. C'est impossible pour un gouvernement de développer 3000 places par année. Ça, là, on s'entend là-dessus. Ça veut dire qu'il faut développer en parallèle toute la question du maintien à domicile, c'est la clé de voûte.
Oui.
Pour faire en sorte d'enlever de la pression sur l'écosystème d'hébergement.
Bon.
Au Québec. Vous le savez, au Québec, comparativement aux autres provinces canadiennes, on a 2600 milieux de vie. C'est d'une complexité incroyable. À partir des RPA, puis des RI, puis des RPS et de tout ce que vous voulez.
Ouais.
Alors, il faut vraiment traiter la globalité, mais le plus important, c'est le maintien à domicile.
Bon. Fait qu'on fait quoi? Je veux dire, on est rendu, là, le budget de la santé et des services sociaux là, approche de 50% de tous les impôts et de toutes les taxes qu'on paye. On est pratiquement entre 45 et 50%. Fait que là, si on veut développer massivement des services à domicile puis des soins à domicile pour que dans 10 ans, on soit capable de garder nos vieux, nos aînés à la maison, je veux dire, ça va coûter une fortune. Fait que comment est-ce qu'on paye ça? Comment est-ce qu'on développe ça?
Oui, mais vous savez qu'on a dépassé notre cible qui était de 20,9 millions d'heures à domicile et on l'a dépassé à 22,7 millions d'heures. Il n'y a jamais un gouvernement qui a investi en 2 ans 380 millions de dollars récurrents pour offrir des soins et des services à domicile. Puis on n'a pas le choix. La population est vieillissante au Québec. Mais c'est pas seulement une question de soins et services à domicile. C'est une question que les municipalités vont faire partie aussi de cette démarche-là. Les municipalités au Québec sont pratiquement toutes municipalités amies des aînés. Les MRC veulent embarquer là-dedans. Il va falloir financer davantage les groupes communautaires.
Mais si les municipalités puis les MRC embarquent là-dedans, Marguerite, ça veut dire qu'ils vont augmenter nos taxes foncières, là. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, là.
Ben, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. La façon dont on a fait en sorte que les municipalités développent des politiques pour les aînés, ben, on a commencé à les voir. On ne les voyait même pas auparavant dans leur ville puis dans leur village. On veut que les gens vivent dans leur ville et dans leur village le plus longtemps possible. La réforme qui a été faite récemment a fait en sorte qu'on a coupé dans des centres de jour Les aînés ont besoin d'aller dans des centres de jour pour socialiser, pour faire en sorte qu'on ait un regard aussi sur la gériatrie et la gérontologie sociale. On est en train de développer des projets et on aura des projets partout à travers le Québec, un peu là, selon la Fondation Âge. Et on travaille avec le docteur Lucier actuellement pour faire en sorte que nos personnes aînées pendant la COVID-19 ne soient pas déconditionnées. Alors, on met en place des actions. On a développé des maisons de répit Gilcal. C'est important, ça, parce que c'est pas seulement pour dormir. Ça fait des centres de jour aussi pendant la journée. Et ça permet aux proches aidants de pouvoir respirer.
Ouais.
Alors, mais on a cette démarche-là.
Mais je me pose la question, Marguerite Blais. Là, je lance des idées comme ça parce que, je veux dire... moi, je suis en mode solution. Là, j'essaye de pas être trop en mode chiolage. C'est facile de chioler, t'sais. Mais là, je me dis, bon, vous me dites, le gouvernement a augmenté le budget, 380 millions de plus. Bon, on va créer 3000 places en maison des aînés, mais on le sait que ça sera pas assez. Fait que ça veut dire qu'il va falloir trouver une manière de garder nos aînés à la maison de plus en plus. Très bien. Bon, là, je vous dis, OK, mais comment on fait ça? Ça prend des services, ça prend du monde qui va en maison pour t'aider avec le ménage, t'aider avec ta toilette, t'aider avec la bouffe. Bon, très bien. OK. Tout ça, ça implique des salaires. Bon, très bien. Il va falloir payer pour ça, mais on paye déjà beaucoup pour la santé et les services sociaux. Là, je vous pose la question. Une société vieillissante comme la nôtre, il va y avoir des gens qui vont être encore en forme, qui vont avoir 65, 67, 70 ans, qui vont avoir encore de l'énergie à donner. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'organiser un système où les personnes qui veulent faire du bénévolat, aider des aînés qui veulent rester à la maison, il n'y aurait pas moyen d'organiser? Moi, je suis certain qu'on aurait des gens qui nous écoutent, là, qui sont en forme, puis qui seraient prêts à aller aider, mettons, une journée par semaine, un aîné à la maison, pour l'aider avec son ménage. Il va falloir puiser là-dedans. Si on fait juste payer, puis payer, puis payer, puis payer, on y arrivera pas, Marguerite. On y arrivera pas. On paye déjà beaucoup de taxes et d'impôts au Québec, là.
Oui, mais on le fait déjà, M. Drainville. Je tiens à vous rassurer. Je vous donne un exemple. On a financé davantage les petits frères pour qu'ils puissent se déployer partout à travers le Québec. Pourquoi? Parce que ce sont des bénévoles, justement, qui vont à domicile pour aider les personnes aînées. On a développé ce qu'on appelle des intervenants de milieu. Les intervenants de milieu vont, justement, à domicile pour briser l'isolement, la solitude, voir si la personne âgée a de la nourriture dans son réfrigérateur, si elle a besoin de services, des CLSC. Alors, on est en train de développer tout ce réseau communautaire. Et quand je parlais de gériatrie sociale, là, comme la Fondation Âge avec le docteur Stéphane Lemire, qui est gériatre en passant, ben lui, il fait de la formation avec les ESAD. Les ESAD, ce sont les entreprises d'économie sociale qui vont à domicile pour donner à la fois des soins, mais aussi pour faire le ménage. Oui. Il est en train de les former comme sentinelles pour être capable de détecter que ce soit la détresse psychologique, que ce soit une détérioration de l'autonomie de la personne. Donc, c'est tout ce réseautage-là qui va faire en sorte qu'on sera capable de garder les personnes à domicile. Puis encore, faut-il que les appartements soient adaptés pour garder la personne à domicile. C'est pour ça que c'est important aussi d'impliquer les villes et les villages. C'est important d'impliquer, quand je dis les villes, les maires et les préfets des municipalités, financer davantage le transport. Financer le transport pour qu'une personne âgée qui n'a pas besoin, par exemple, de prendre le transport adapté parce qu'elle n'est pas assez en perte d'autonomie, puisse se déplacer d'un endroit à un autre endroit. Alors, nous autres, là, les CHSLD, on veut les rénover. Il y en a 2500 places qui seront rénovées. On va construire des maisons des aînés, mais on focalise, puis il y a une politique qui va sortir assez rapidement, un horizon jusqu'en 2005 pour faire en sorte qu'on puisse développer dans la communauté tous les soins et les services pour que les gens puissent rester à la maison le plus longtemps possible. Et en même temps, là, à l'automne, on va déposer la première politique d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec, tout comme la politique nationale des personnes proches aidantes.
Regardez, là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, ma mère a presque 70 ans, elle va aider l'une de ses tantes et son conjoint qui ont 80 ans. Elle les aide à faire du ménage, quelquefois elle leur fait des petits repas, et puis ça évite à ma tante de se retrouver en résidence ou en CHSLD. Là. Tu sais, c'est un exemple. Puis moi, de l'entraide comme ça, il y en a plein, Marguerite.
Vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut soutenir aussi les centres d'action communautaire, les centres d'action bénévoles. Vous savez qu'il y a partout des centres d'action bénévoles et ces gens-là font des miracles. Alors, c'est important qu'on ait une reconnaissance pour nos groupes communautaires. Et voyez-vous, j'ai moi-même 70 ans, M. Drainville, puis je sens que j'ai encore de l'énergie pour continuer de travailler. Ouais. Donc, une personne de 70 ans aujourd'hui, bien souvent, c'est une personne qui est encore jeune, dynamique, qui a beaucoup à donner, à apporter. Puis moi, je félicite les personnes qui vont justement faire du bénévolat auprès des personnes plus vulnérables.
D'accord. Marguerite Blais, ministre, responsable des aînés et des proches aidants. C'est ça. On lâche pas?
Je pense que vous lâchez. Vous me connaissez assez pour savoir que j'ai de résilience à toute épreuve.
C'est très bien. Merci, Marguerite.
Merci, au revoir.
Au revoir, Luc.
Oui, Bernard.
Qu'est-ce que ça t'inspire j'imagine que tu sens un petit peu l'urgence dans ma voix, hein?
Oui, effectivement. Écoute, moi, je trouve d'abord que le modèle de Trois-Rivières est vraiment un modèle. L'ayant vécu personnellement dans les dernières années avec mon père, s'il y avait eu ce genre d'endroit, ça aurait été tellement meilleur que ce qu'il a vécu, qu'il n'était pas... Je veux dire, il n'a pas été maltraité, mon père, mais je veux dire, ce n'était pas ce concept-là.
Il était-tu en CHSLD, ton père, rappelle-moi-le?
Il a fini en CHSLD, mais avant ça, il était dans des résidences privées spécialisées.
D'accord.
Je trouve que ta question... Tu dis, il y en a qui vont m'en vouloir parce que je le demande.
Sont-ils
syndiqués? Écoute, ce problème-là des conventions collectives qui ne représentent plus la réalité, qui sont en fait des espèces de montagnes de papier qui toujours plus gros. Ça finit qu'on se retrouve avec des syndicats qui sont un empêcheur de faire fonctionner la société et à plusieurs égards, je veux dire. Par exemple, tu prends le cas des 26 $ de l'heure. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Tu as un syndicat qui dit « Wow! Tu ne payeras pas le monde plus cher, là? Qu'est-ce que tu fais là? » Évidemment, ils vont me trouver toutes sortes d'explications. C'est pas ce qu'on voulait dire, puis c'était le palier, je ne sais pas quoi, puis des bébelles de syndicalistes. Mais le fait est que si on n'avait pas toutes ces espèces de structures rigides d'un autre temps, qui ne répond plus à la demande normale et moderne, si on n'avait pas toutes ces structures-là, on aurait des bien meilleurs services à offrir à nos citoyens.
Il faudrait accepter. Moi, on aura cette discussion-là à un moment donné, Luc, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné que le mouvement syndical, en particulier dans tout le secteur de la santé et des services sociaux, accepte la polyvalence, accepte de décloisonner, puis d'accepter qu'à un moment donné, le même employé peut faire 2-3 tâches.
Oui, il faut
donner de l'oxygène, puis je suis certain que les gens qui travaillent dans le secteur de la santé et des services sociaux, ils trouveraient leur compte. Écoute,
Il faut faire disparaître la règle absolue et absolue de l'ancienneté. Faut récompenser l'excellence. Il faut...
Permettre la polyvalence.
Créer aussi un milieu de travail où on a envie d'y rester. Ce que Madame de Trois-Rivières disait, je la trouvais excellente, cette dame-là. Ce qu'elle disait, c'est les gens, ils restent ici parce qu'ils sont bien dans ça. Ils sont bien dans ça, ils connaissent leurs patients.
Ouais.
Ils finissent par développer.
Ils sont heureux, dans le fond, c'est ça qu'elle nous disait.
Je me souviens dans le cas de mon père, quand j'allais le voir, il a été dans trois endroits différents. Mettons, dans le premier endroit où il a été, il y avait une préposée là, qui s'occupait de lui beaucoup. Elle le trouvait drôle, puis ils s'amusaient ensemble, puis quand je le voyais, puis qu'il était autour, il était 5 fois plus heureux que la normale parce qu'il connaissait la personne, parce que c'est un milieu de vie, c'est pas un laboratoire, cette affaire-là. Là.
Luc, on en reparle?
On en reparle avec
plaisir. Parce qu'après la pause, c'est la mêlée de presse de François Legault, mêlée de presse. Pas point de presse, là, mais mêlée de presse avant la période des questions. On va vous présenter cette mêlée de presse en direct. Restez à l'écoute.